الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو الثامن من شهر ربيع الثاني عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس الثاني والعشرين من شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 15 décembre 2018 et nous sommes réunis pour le 22e cours de l'étude du livre Al-Ubudiyya, la servitude de l'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous nous sommes arrêtés alors que nous étions en train de parler de la soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala, en tant que serviteur. Où l'auteur, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous disait « وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ الَّذِي أَرْسَلَ بِهِ رُسُولَهُ » Voici la réalité de l'islam par lequel tous les messagers ont été envoyés. Cette réalité dont il parle est celle que nous avons citée lors de la dernière assise. C'est le fait que plus la personne fait développer sa servitude pour Allah Azza wa Jal, plus elle en est proche, plus elle est haute et élevée chez Allah, mieux elle est, plus guidée elle est. Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit wa anzala bihi kutuba wa huwa an yastaslima al-'abd lillah la li ghayrihi. C'est par cet islam aussi que tous ces livres ont été révélés. Et cet islam consiste à se soumettre à Allah en tant que serviteur uniquement et à nul autre que lui. Et nous avions dit que la définition de l'islam, c'est le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par l'application du monothéisme, par l'application de l'adoration vouée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est aussi l'accomplissement des actions et le fait de se désavouer du polythéisme et des polythéistes et de ceux qui le commettent. Après cela, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit فَالْمُسْتَسْلِمُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ مُشْرِكِ. Quiconque se soumet, quiconque manifeste une soumission qui est celle que l'on ne doit manifester qu'à Allah Azza wa Jal, quiconque soumet cette soumission à Allah Azza wa Jal, mais aussi à un autre que lui au même moment, une telle personne est polythéiste, mushrik. Cet individu est un associateur, car il a donné un égal à Allah Azza wa Jal dans ce qui revient de droit exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mumtani'u 'ani al-islam lahu mustakbir. Quant à celui qui refuse de se soumettre à lui, il n'applique pas cette servitude ni cette adoration. Il ne se soumet pas donc à Allah Azza wa Jal. Celui-ci est un orgueilleux. Et il est rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna al-jannata la yadkhuluha man fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr » Nul, ou le paradis, ou plutôt, personne ayant dans le cœur le poids d'une fourmi, ou certains disent, le traduisent par l'atome, l'essentiel c'est de reconnaître que c'est quelque chose d'infime, quelque chose de très petit. Personne n'entrera au paradis s'il a dans le cœur cette mesure d'orgueil. كما أن النار لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. Tout comme personne ayant dans le cœur ce même poids de foi n'entrera au feu. Et souvenez-vous que j'avais dit lors de la dernière assise que ce qui est correct, c'est de dire « la yukhalladu fiha ». La yukhalladu fiha, c'est-à-dire ne sera pas éternisé dans le feu. Le sens est vrai, si ce n'est que les termes du hadith sont bien ceux-là. Les termes du hadith, après avoir vérifié à nouveau, sont bien ceux notés dans ces lignes que nous lisons. Et je m'étais basé sur la parole du Cheikh Abdelrazak al-Badr qui a dit ce qui est correct, c'est de dire la yukhalladu et pas la yadkhulu. Si ce n'est qu'après avoir vérifié dans les hadiths, c'est bien yadkhulu. Mais le Cheikh a quand même raison parce que ce qu'il vit, c'est le sens. C'est-à-dire que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la yadkhuluha, n'y entrera pas, en parlant du feu, quiconque a, ne serait-ce que le poids d'une fourmi ou d'un atome, selon ce que vous venez de comprendre, deux fois, c'est-à-dire, soit il n'y entrera pas directement, donc il n'y entrera plutôt jamais, pour être plus clair, soit il n'y entrera pas pour y rester éternellement. Vous comprenez? Donc, ce qui est voulu par l'entrée en enfer peut être l'entrée, comme elle vous vient à l'esprit très clairement, ou alors elle peut être l'entrée pour y rester éternellement. Ce qui est voulu ici, il n'entrera pas en enfer pour y rester éternellement à partir du moment où il a cette mesure de foi dans le cœur. Mais si elle est accompagnée de l'application de tous les ordres d'Allah Azza wa Jal, de la soumission à Allah comme il se doit, à ce moment-là, ce qui est voulu sera, il n'entrera pas du tout au feu. Vous comprenez? Le monothéiste, celui qui n'adore qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, soit il revient le jour dernier à Allah, repenti de ses péchés, et donc accepté, il n'entrera donc pas du tout au feu. Mais il y a des monothéistes n'ayant commis aucune forme de polythéisme ou qui s'en sont repentis, ils sont morts sur le tawhid, mais ils ont commis des grands péchés desquels ils ne se sont pas repentis et pour lesquels Allah Azza wa Jal choisira pour certains par sa justice parfaite de leur faire un passage dans le feu pour payer ses péchés. Et puis ils en sortiront pour entrer au paradis car ils ont dans le cœur ne serait-ce qu'une fourmi de foi. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit فجعل الكبر مقابلا للإيمان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que l'orgueil fait face à la foi. Il y a d'un côté la foi et de l'autre côté l'orgueil, la non-soumission, la non-acceptation, le refus de plein gré. فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية. Quant à l'orgueil, il annule la réalité de la servitude. Quiconque a le cœur habité par l'orgueil ne pourrait être un serviteur d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi et je vous exaucerai. Qu'est-ce qu'il a dit de ceux qui refusent de l'invoquer? Invoquez-moi, je vous exaucerai. Qu'est-ce qu'il a dit d'eux? إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Ceux qui s'enorgueillissent dans mon adoration ou face à mon adoration entreront en enfer où ils seront avilis. Qui sont ces gens-là? Ceux qui refusent de l'invoquer. Ils refusent de l'invoquer, c'est de l'orgueil. Et pour cela, Allah Azza wa Jal a dit d'eux qu'ils refusent de l'adorer. Ces gens-là seront humiliés par Allah Azza wa Jal. Il y a donc soit la soumission, soit l'orgueil. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته. Dans le hadith Qudsi, ce qui est appelé le hadith Qudsi, c'est une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'est pas dans le Coran. Cette parole a été entendue par Jibril alayhi salam, qu'il a aussitôt transmise au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même l'a transmise à la communauté. C'est donc une parole d'Allah azza wa jal, mais qui n'est pas dans le Coran. Qu'est-ce qu'Allah Azzawajal nous dit? Al-azamatu izari. L'immensité, je vous avais dit que la traduction est rapprochée. L'immensité, al-azama, est un attribut d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il nous dit, Azzawajal, al-azamatu izari. L'immensité est mon pagne. Wal-kibriya'u rida'i. Et la grandeur est mon manteau. فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ. Quiconque cherche à me rivaliser, à rivaliser avec moi dans l'un de ces deux choses-là, de ces deux attributs-là, pardon, je le châtirai. Quiconque essaie de s'attribuer cet attribut qui, ces attributs que sont Al-Azama ou Al-Kibriya, l'immensité ou la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Car le mot grandeur n'est pas assez fort pour expliquer Al-Kibriya. C'est la grandeur de la grandeur de la grandeur de la plus grande de toutes les grandeurs. Il n'y a pas de mot égal. Donc ce n'est que une approximation. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit فَالْعَظَمَةُ وَالْكِبْرِيَاءُ مِنْ خَصَائِسِ الرُّبُوبِيَّةِ. Ces deux attributs que sont Al-Azama ou Al-Kibriya, traduits de manière rapprochée par l'immensité et la grandeur par excellence, sont des caractéristiques de la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-Kibriya ou A'la min Al-Azama. Le deuxième est plus grand que le premier. Al-Kibriya, la grandeur, est plus grand encore que Al-Azama, traduit de manière rapprochée par l'immensité. Et ce qui est voulu ici, nous dit le Cheikh l'Islam, وَلِهَذَا جَعَلَهَا بِمَنْزِلَةِ الرِّدَى كَمَا جَعَلَ الْعَظَمَةَ بِمَنْزِلَةِ الْإِزَارِ. Allah Azza wa Jal, dans ce hadith Qudsi, a cité le fait que الرِّدَى, le manteau, a été à l'image de Al-Kibriya, de la grandeur. Comme la grandeur est plus grande que comme Al-Kibriya est plus grand que Al-Azama, Allah Azza wa Jal a cité Al-Kibriya avec le manteau, le vêtement qui se porte en haut. Et quand il a cité Al-Azama, il l'a cité avec le pagne, Al-Izar, le vêtement qui se porte en bas. Quand je dis « il se porte en haut, en bas », nous parlons bien évidemment de l'homme, n'est-ce pas? Quant à Allah Azza wa Jal, Allah nous dit qu'il a ses attributs, et nous ignorons le comment et ne cherchons pas à entrer dans ce que il ne nous a pas enseigné, subhanahu wa ta'ala. Mais nous retenons qu'il est qualifié par ces deux attributs que sont Al-Azama ou Al-Kibriya, et qu'Allah Azza wa Jal n'agrée pas que son serviteur se déclare par ou se décrit par ses attributs. En parlant de qui? De l'orgueilleux. C'est l'orgueilleux qui se sent immense. C'est l'orgueilleux qui se sent élevé. Et c'est de l'orgueil que nous sommes en train de parler. Regardez ce que dit l'auteur, rahimahullah ta'ala. وَلِهَذَا كَانَ شِعَارُ الصَّلَوَاتِ وَالْأَذَانِ وَالْأَعْيَادِ هُوَ التَّكْبِيرِ. C'est pour cette raison, c'est-à-dire c'est pour ne pas s'enorgueillir, c'est pour ne pas s'attribuer ces attributs qui ne sont que à Allah Azza wa Jal, Al-Azama, l'immensité, Al-Kibriya, la grandeur, que l'on retrouve Al-Takbir, la parole Allahu Akbar, dans la prière, dans l'appel à la prière. On le prononce aussi lors des fêtes, les deux Eid, les deux fêtes après Ramadan et la fête du sacrifice. Pourquoi est-ce que l'on prononce ces paroles-là? C'est pour toujours reconnaître qu'Allah est plus grand que nous, qu'Allah Azza wa Jal est plus grand que tout. Et dès lors que le croyant reconnaît la grandeur d'Allah, qu'il est plus grand que tout, cela enlève de son cœur l'orgueil. Car l'orgueil, c'est aussi le fait de se voir grand, de se voir haut, alors qu'il n'est rien, ce pauvre misérable. Et donc, l'imam rahimahullah nous dit « وَكَانَ مُسْتَحَبًّا فِي الْأَمْكِنَةِ الْعَالِيَةِ كَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ » وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك. L'auteur, rahimahullah, nous dit, de même, il est fortement recommandé de proclamer la grandeur d'Allah, de prononcer le takbir, Allahu Akbar, lorsque la personne gravit des sommets, lorsqu'elle s'élève en hauteur, comme ces deux sommets appelés As-Safa et Al-Marwa, qui sont deux monticules situés à la Mecque, proche de la Kaaba. Lorsque notamment tu accomplis le pèlerinage et la Umra, il est prescrit de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, après être monté sur ces deux monts. De même, il est fortement recommandé de prononcer Allahu Akbar au cours du voyage. C'est une sunna. Quand tu es en voyage et que tu es en train de monter dans une montée, que ce soit l'avion qui décolle ou alors le moyen de transport que tu as embarqué qui monte, une voiture, et même un animal sur le dos duquel tu te trouves. Ça peut être l'âne, ça peut être le chameau, ça peut être le cheval. Lorsque tu es en train de monter, tu dis Allahu Akbar. Et vous allez voir la grande sagesse de cela. Pourquoi est-ce que l'on dit Allahu Akbar alors que l'on monte, alors que l'on gravit un sommet? Parce que lorsque la personne monte, plus tu montes et t'élèves, plus ce qui est en dessous de toi est petit, n'est-ce pas? Il se peut que le shaitan joue avec la personne. Cette personne qui se voit haute et qui voit tout en dessous d'elle se dit que tous ceux-là sont petits, tous ceux-là sont insignifiants et moi j'ai atteint les sommets. Moi je suis tel et tel. Eh bien, pour purifier le cœur de tout cela, lorsque tu montes, certes tu t'élèves, mais tu te souviens qu'Allah est le plus grand, subhanahu wa ta'ala. Et quand bien même tu atteindrais les sommets les plus élevés, comme par exemple le mont de l'Everest, comme le Mont Blanc en France et autres, qui sont des sommets immensément grands, élevés, ou alors celui qui se trouve au Japon et sur lequel les gens se rendent pour pouvoir assister au lever du soleil avec une vue imprenable, et ça c'est connu. Et il y a aussi des monts dans le monde. Certains font partie des sept merveilles du monde, n'est-ce pas? Eh bien, tu montes, mais tu te souviens qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le plus grand. Et c'est pour cela que c'est une sunna de prononcer le takbir pendant l'élévation, ou lorsque la personne gravit des sommets élevés. Et cela va purifier ton cœur, bien entendu, de tout orgueil. De même, toute personne qui est appelée ou qui est amenée à s'adresser à autrui au-dessus d'une estrade ou sur une élévation, si la personne ressent en elle quelque chose, alors qu'elle le chasse en disant « Allahu Akbar, subhanahu wa ta'ala » car rien n'est plus haut, rien n'est plus élevé, rien n'est plus grand que lui, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal nous a prescrit de reconnaître sa grandeur. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, nous dit, donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan a fait la mention de prononcer Allahu Akbar lorsque l'on embarque sur la monture, telle que la voiture, le bateau, l'avion et toutes ces choses-là. Et ça, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous enseigne de ce comportement. Ensuite, l'auteur rahimahullah nous dit وَبِهِ يُطْفَأُ الْحَرِيقُ وَإِنْ عَظُمُ. Et par le takbir, le feu, l'incendie s'éteint, même s'il est énorme. Ici, l'auteur rahimahullah se base sur un récit dont l'authenticité a été discutée. Certains voient qu'il est acceptable, pendant que d'autres voient que ce récit, du point de vue de l'authenticité, ne l'est pas. Il semblerait que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, penche vers l'acceptation de ce récit. Quoi qu'il en soit, certains savants du hadith, comme le grand savant Abdul Muhsin al-Abbad, qu'Allah le préserve, jugent ce récit comme étant faible. Mais nous retrouvons dans Zadul Ma'ad un écrit de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, après qu'il ait mentionné ce récit, dont l'authenticité, comme je vous l'ai dit, a été discutée, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: ولهذا كان تكبير الله عز وجل له أثر في إطفاء الحريق. Pour cela, l'on voit et remarque que la prononciation du takbir a un effet sur l'extinction de l'incendie. فإن كبرياء الله عز وجل لا يقوم لها شيء. Car rien ne résiste devant la grandeur d'Allah. فإذا كبر المسلم ربه أثر تكبيره في خمود النار. Lorsque le musulman prononce le takbir Allahu Akbar, ce takbir a un effet sur l'extinction du feu et son étouffement. Wa khumud ash-shaytan. De même l'étouffement du shaytan. التي هي مادته فيطفئ الحريق. Car le diable c'est la base du feu. Et ainsi l'incendie s'éteint. Ibn al-Qayyim nous dit: وَقَدْ جَرَّبْنَا نَحْنُ وَغَيْرُنَا هَذَا فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Et nous l'avons essayé. Nous avons essayé de dire Allahu Akbar lorsque l'on voyait du feu, nous et d'autres aussi, et nous avons trouvé cet effet. Ça c'est l'expérience de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, et Allah est capable de tout, subhanahu wa ta'ala. L'auteur nous dit ensuite: وَعِنْدَ الْأَذَانِ يهرب الشيطان. Lorsque l'appel à la prière est prononcé, le shaytan prend la fuite. Il entend le takbir, il ne peut pas y résister. Et il ne se contente pas de prendre la fuite, mais il prend la fuite tout en émettant le son entendu de la personne de laquelle s'échappe un gaz. Tellement il ne veut pas entendre le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dans le sens rapproché du verset: et votre Seigneur a dit: invoquez-moi et je vous exaucerai, certes ceux qui s'enorgueillissent devant mon adoration entreront en enfer où ils seront avilis. وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره. Maintenant, il nous explique: qu'en est-il de celui qui s'enfle d'orgueil dans l'adoration d'Allah? Est-ce qu'il va adorer autre chose? La réponse est la suivante: toute personne qui s'enorgueillit d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala deviendra inévitablement serviteur de quelque chose d'autre. Et ça, c'est inévitable. Car comme nous dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan, لِأَنَّ الْإِنسَانَ أَصْلُهُ عَبْدُ. Car à la base, l'individu est un serviteur. Il est créé pour être serviteur, pour être adorateur. Si ce n'est pas Allah Azza wa Jal qui l'adore, ça sera autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est inévitable. Car c'est en lui. Il est créé de cette façon. Son cœur a un penchant, son cœur a un besoin. Soit il nourrit ce besoin dans l'adoration d'Allah, ou alors il ne le nourrit pas, mais l'augmente en adorant autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Car il ne pourra jamais se rassasier si ce n'est dans l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est à lui donc de choisir. Et ceux qui décident de ne pas adorer Allah azza wa jal décideront alors d'adorer autre que lui. L'auteur nous dit: فَإِنَّ الْإِنسَانَ حَسَّاسٌ يَتَحَرَّكُ بِالْإِرَادَةِ. L'homme est sensible et il œuvre en fonction de sa volonté. L'homme est sensible, il œuvre en fonction de sa volonté. L'homme a envie de faire. L'homme n'est pas un objet inerte. L'homme est animé par les envies. Ainsi, s'il n'a pas envie d'adorer Allah Azza wa Jal, du fait qu'il est un homme, il ne peut pas se séparer d'avoir envie de. Il aura donc envie d'adorer autre que lui, subhanahu wa ta'ala. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الأسماء حارث وهمام. Il est rapporté de manière authentique que le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit: les les noms propres les plus véridiques, ou alors les prénoms les plus véridiques, sont Harith et Hammam. Pourquoi ? En raison de leur sens. Harith. Harith, c'est celui qui laboure la terre. Comment est-ce qu'on l'appelle ? Le ? On dit laborateur ou laboureur ? Laboureur. Le laboureur, tu as raison. On l'appelle le laboureur. Pourquoi c'est aimé cela ? Parce qu'ici, il y a ici la notion de l'action, du fait d'agir. Le laboureur ne reste pas assis. Le laboureur travaille, il s'investit, il bouge, n'est-ce pas ? Il fournit des efforts, il déploie. Et le deuxième nom, c'est Hammam. Hammam, c'est, de manière rapprochée, on pourrait dire le soucieux. Celui qui est tout le temps en train de réfléchir à quelque chose, à faire quelque chose. Regardez, ces deux noms-là ont été décrits comme étant les plus véridiques. Pourquoi ? Parce qu'ils contiennent la notion de faire et de vouloir. Et c'est ainsi que l'homme est. L'homme ne peut pas se passer de vouloir, il ne peut pas se passer de faire. Mais il va choisir. Soit il voudra et il fera l'adoration d'Allah, soit il voudra et fera l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullah nous donne une très belle remarque. Tout de suite après la parole de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, asdaqul asma'i harithun wa hammam, les noms propres les plus véridiques sont le laboureur et le hammam. Il nous dit wa ahabbul asma'i ilallah abdullahi wa abdurrahman. Et les noms les plus aimés d'Allah sont Abdullah et Abdurrahman. Tayyib. Il nous dit ensuite فَالْحَارِثُ الْكَاسِبُ الْفَاعِلِ وَالْهَمَّامُ فَعَالٌ مِنَ الْهَمُ وَالْهَمُ أَوَّلُ الْإِرَادَةِ. Il nous dit ce que je viens de vous dire. Et il nous dit الْهَمْ, ce qui est appelé الْهَمْ, ce que j'ai traduit à peu près par le souci, mais de manière plus précise, ce que l'on appelle الْهَمْ, c'est le souci par rapport à l'avenir. Parce que dans les hadiths, on retrouve, ou dans les textes, on retrouve trois soucis liés au cœur. Le premier, c'est Al-Hammu. Al-Hammu, c'est le souci lié à l'avenir. Lorsque la personne réfléchit sur ce qu'elle doit faire, sur ce qu'elle va faire, on appelle cela Hammun. Il y a le souci par rapport au passé. On l'appelle Al-Huzn, la tristesse. Et il y a le souci par rapport au présent, on l'appelle Al-Ghammu. Soit la personne est soucieuse du passé, du présent ou de l'avenir. Lorsque l'on parle de l'avenir, on appelle cela Al-Hammu. Et Al-Hammu, nous dit l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est le début de la volonté. Tout commence par Al-Hamm. La personne réfléchit sur quelque chose qu'elle est susceptible de faire et ensuite elle décide, elle veut faire. Ainsi, الهم أول الإرادة. فالإنسان له إرادة دائمة. L'homme a une volonté constante. L'homme a toujours envie de faire quelque chose. وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه. Et toute volonté a nécessairement quelque chose qui est voulu. Le point de départ, c'est la volonté. L'arrivée, c'est la chose que tu as voulu. Toute volonté a nécessairement quelque chose au final qui a été voulu. Tu commences par vouloir manger, tu termines par manger. Tu commences par vouloir dormir, tu termines par dormir, n'est-ce pas ? L'homme ne peut pas se passer d'une volonté. Il a toujours envie. Donc soit il aura envie d'adorer Allah et il va y arriver, soit il va avoir envie d'adorer autre qu'Allah, il va y arriver aussi. Il va donc devenir un mushrik. Wal'iyadu billah. L'auteur rahimahullah nous dit فَلَا بُدَّ لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْ مُرَادٍ وَمَحْبُوبٍ هُوَ مُنْتَهَى حُبِّهِ وَإِرَادَتِهِ. De manière inévitable, chaque personne, chaque serviteur a quelque chose qu'elle veut. qui lui est aimé. Quelque chose qu'il veut et qui lui est aimé. Quelque chose à quoi il va s'arrêter. S'il choisit d'aimer Allah tabaraka wa ta'ala, il va arriver à l'adorer. S'il choisit d'aimer autre chose et de vouloir autre chose, il adorera, il adorera et atteindra cette autre chose. Wal'iyadu billah. Ainsi, l'on voit la nature de l'homme. L'homme est serviteur. L'homme veut. C'est à lui de choisir. Regardez ce que le prophète Yusuf alayhi salam a dit à ses co-détenus lorsqu'il était emprisonné dans l'épreuve qu'il a rencontrée dans sa vie. Il leur a dit, ils étaient deux, « Ya sahibay sijni, ô vous mes deux co-détenus, a arbabun mutafarriquna khayrun am Allah al-wahid al-qahhar ?» Est-ce que plusieurs seigneurs différents sont meilleurs ou plutôt Allah, l'unique, le dominateur suprême? On comprend de ce verset que soit ils voudront Allah, Azza wa Jal, soit ils voudront autre que lui. Pour cela, Yusuf leur dit, est-ce que ce sont ces différents seigneurs, qui en réalité ne le sont pas, sont meilleurs ou plutôt Allah, l'unique, le dominateur suprême, subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, nous dit ensuite, فَمَنْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ مَعْبُودَهُ وَمُنْتَهَا حُبِّهِ وَإِرَادَتِهِ بَلْ إِسْتَكْبَرَ عَنْ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مُرَادٌ مَحْبُوبٌ يَسْتَعْبِدُهُ غَيْرُ اللَّهِ. Ainsi, celui qui n'a pas Allah Azza wa Jal comme adoré, comme recherché, voulu dans son amour, et qui fait preuve d'orgueil face à cela, il aura inévitablement autre que lui à adorer. Et il en deviendra le serviteur. Wal'iyadu billah. Tout ça pour nous enseigner que l'orgueil amène au shirk. Si tu refuses de te soumettre à Allah, tu te soumets à autre que lui. Fayakunu 'abdan lidhalika al-murad al-mahbub. Un tel individu devient alors le serviteur de cette chose qu'il a aimée, qui n'est pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Imma al-mal, ça peut être l'argent, comme nous l'avons développé dans les chapitres précédents, wa imma al-jah, ça peut être la notoriété, wa imma suwar, des images, comme on l'a déjà développé à plusieurs reprises. Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit, wa hadha min al-inhitat an yalja al-insan al-aqil ila, ah non, ça va venir après plutôt, wa imma ma yattakhidhuhu ilahan min dunillah. Ça peut être aussi toutes ces choses qui sont déclarées divinité, qui sont prises en divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal. En exemple, il nous dit qu'ash-shamsi, comme le soleil, wal-qamari, la lune, wal-kawakib, les différents astres, wal-awthan, les idoles, wa-quburi al-anbiya wa-salihin, les tombes des prophètes et des gens pieux, aw min al-mala'ikati wal-anbiya الَّذِينَ يَتَّخِذُهُمْ أَرْبَابًا, ou les anges et les prophètes qui sont pris en seigneur en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ashir Salih al-Fawzan nous dit, et cela fait vraiment partie du rabaissement que l'homme a choisi. Un individu qui est doué de raison, comment peut-il délaisser Allah, subhanahu wa ta'ala, dans l'adoration, pour vous et celle-ci, à quelqu'un ou à quelque chose en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal nous cite l'image des polythéistes. Il nous dit وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Dans le sens rapproché du verset, et quiconque donne un égal à Allah, commet le polythéisme, l'association, c'est comme si il s'effondrait du ciel et qu'il était attrapé en plein vol par les rapaces. Les rapaces, les oiseaux qui sont forts et qui peuvent manger l'homme, tels que l'aigle, le faucon, etc. Il nous dit où qu'il est éloigné dans un endroit très loin par les vents. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah a expliqué cette parabole dans un de ses écrits. Il nous dit, ici il y a des comparaisons qui sont faites. La comparaison de l'état du muwahhid, du monothéiste qui n'adore qu'Allah Azza wa Jal, il est comparé à celui qui est au ciel, car le tawhid élève la personne. Et l'état de celui qui tombe dans le shirk, il est comparé à celui qui tombe du ciel. En commettant le shirk, la personne descend des hauts degrés, comme celui qui tombe du ciel. Ensuite, vous voyez que celui qui tombe du ciel n'est pas dans une situation de quiétude, ni stable, de stabilité. Il est complètement et totalement paniqué, excité, et il a même la peur à l'idée de savoir qu'il va mourir dans quelques secondes. Regardez l'état de celui qui commet le shirk, comment il a été comparé. Donc il ressemble à celui qui quitte les hauts degrés et qui s'effondre du ciel de son plein gré. C'est lui qui l'a choisi. Il s'effondre du ciel et en plein air, il est dévoré par les rapaces. Il est déjà en train de souffrir par l'effondrement et pendant qu'il souffre de l'effondrement, il se fait dévorer par les rapaces affamés. Subhanallah. Et ça, nous dit l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, c'est la ressemblance avec les shayatin, les démons qui sont ceux qui ont dévoré l'homme en le poussant vers le shirk. Wal'iyadhu billah. Et ensuite, donc soit il a cette image ou alors il a l'image de celui qui s'est effondré et qui a été propulsé par des vents violents dans des endroits lointains. Ces vents violents font référence aux passions qui ont été suivies et qui ont conduit la personne à adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. Allah m'a facilité de tenir une conférence sur les exemples, le tawhid, à travers des paraboles dans le Coran. Je vous invite à l'écouter et vous verrez toutes les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans l'explication de ces différentes paraboles et images faites par Allah Azza wa Jal. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala, naam, nous dit « Aw ghayri dhalika mimma 'ubida min dunillah » ou tout autre parmi ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'un homme doué de raison peut délaisser Allah tabaraka wa ta'ala au-dessus des cieux pour adorer une créature qui va mourir ou qui est morte ou qui n'a jamais vécu? Car les créatures d'Allah azza wa jalla sont soit inertes, elles n'ont jamais vécu, soit elles sont mortes, soit elles vont mourir. Comment délaisser tout ça et adorer? Comment délaisser Allah, pardon, et adorer tout ça? L'auteur rahimahullah nous dit ensuite, وَإِذَا كَانَ عَبْدًا لِغَيْرِ اللَّهِ يَكُنُ مُشْرِكًا. Et s'il adore un autre qu'Allah, cet orgueilleux, il devient alors un polythéiste, un associateur. وَكُلُّ مُسْتَكْبِرٍ فَهُوَ مُشْرِكٍ. Et tout orgueilleux est polythéiste. وَلِهَذَا كَانَ فِرْعَوْنُ مِنْ أَعْظَمِ الْخَلْقِ اسْتِكْبَارًا عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ. Pour cette raison, nous voyons dans le Coran que Pharaon fait partie des plus grands orgueilleux dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, wa kana mushrika. Et Pharaon était un polythéiste. Il était polythéiste à cause de son orgueil. Il s'est lui-même associé à Allah Azza wa Jal en tant que Seigneur et il a lui-même voué le culte à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il nous cite quelques versets qui concernent l'histoire de Pharaon. Il nous dit qala ta'ala wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qarun fa qalu sahirun kadhab ila qawlihi fa qala Musa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawm al-hisab. Musa a été envoyé à Pharaon avec les preuves émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala évidentes. Il a été envoyé à Pharaon, à Haman et à Qarun. Haman, le ministre de Pharaon, et Qarun, un homme qui était riche aussi de son époque. Qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est un sorcier, un grand menteur. Jusqu'à ce que Moussa, à la fin, leur dise « Je cherche refuge auprès de mon Seigneur et du vôtre, contre tout orgueilleux. » C'est quoi l'orgueil ici? Il les a appelés à Allah, ils ont dit « Tu mens, tu es un sorcier. » C'est exactement ça l'orgueil. Ils l'ont manifesté par ces fausses accusations. Ils n'ont pas voulu se soumettre. Ils n'ont pas accepté. À cause de cela, ils vont devenir polythéistes. Moussa alayhi salam a dit « Je cherche la protection auprès de mon Seigneur et du vôtre contre tout orgueilleux ne croyant pas au jour des comptes, au jour dernier. » Il a qawlé « Kadhalika yatba'u Allah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar » C'est ainsi qu'Allah a scellé les cœurs de tout orgueilleux tyrannique. Donc on voit qu'ici Allah Azza wa Jalla nous parle de l'orgueil. وقال تعالى وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. Allah Azza wa Jalla a cité Qarun, Fir'aun et Haman en nous disant que Moussa est venu à eux avec les preuves claires. Ils se sont enorgueillis sur terre et ils n'étaient pas de ceux qui ont devancé dans le bien. وقال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الله عز وجل nous dit au sujet de Pharaon, certes Pharaon s'est élevé sur terre, s'est enflé d'orgueil, il s'est vu haut, plus haut que tout le monde. Et il a divisé ses habitants en plusieurs parties, les habitants de la terre en plusieurs parties. Il les a divisés. Pour certains, qui sont les enfants, les garçons, il les a tués. Alors que les femmes, il les a laissées vivantes. Il était certes du nombre des corrupteurs. Tous ces versets-là font allusion à l'orgueil de Pharaon. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit que Pharaon était orgueilleux et polythéiste. Toutes ces preuves que vous venez d'entendre sont celles montrant son orgueil. Ensuite, l'imam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit wa mithlu hadha fil Qur'an kathir. Et les versets semblables dans le Qur'an sont très nombreux. C'est-à-dire, nous dit le Cheikh al-Fawzan, les versets faisant la mention des tyrans, des transgresseurs, comme notamment l'histoire de An-Namrud avec Ibrahim. Lorsque Ibrahim a dit « Mon Seigneur donne la vie et la mort » et lui a dit « Moi aussi je donne la vie et la mort ». Et il y a eu un dialogue qui s'est engagé entre Ibrahim, le prêcheur à Allah Azza wa Jal, et Nimrod qui a perdu, qui a été vaincu dans le dialogue. Car Ibrahim alayhi salam a dit à Nimrod « Fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriq, fa'ti biha min al-maghrib » Allah ramène le soleil du mashriq. Je ne sais plus si c'est l'Orient, je confonds souvent ces deux mots-là, de l'Orient ou de l'Occident. Ramène-le de l'autre, toi. فَبُوْهِتَ الَّذِي كَفَرْ Alors, celui qui a mécru, c'est-à-dire An-Namrud, fut humilié. L'auteur, rahimallah, nous dit ensuite وَقَدْ وُصِفَ فِرْعَوْنُ بِالشِّرْكِ فِي قَوْلِهِ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. Pharaon a été décrit par le polythéisme. Donc là, on va voir la preuve qu'il est un mushrik. Dans le verset, dans le sens rapproché, l'assemblée du peuple de Pharaon lui a dit: vas-tu laisser Moussa et son peuple pervertir la terre? Qu'est-ce qui pervertit la terre, d'après eux? Moussa, le prophète d'Allah Azzawajal, et son peuple, qui appelle à Allah. Ils disent à Pharaon, pour l'inciter dans son mal, vas-tu laisser Moussa et son peuple pervertir la terre? Te délaisser et délaisser tes divinités. Cela montre que Pharaon avait des divinités qu'il adorait. Plusieurs paroles ont été attribuées aux salafs. Certains disaient qu'il adorait une vache. D'autres disaient qu'il adorait telle et telle chose, mais l'authenticité de ces récits sont discutés par les savants. Quoi qu'il en soit, ce verset est un texte montrant que Pharaon avait des divinités à qui il vouait le culte en dehors d'Allah. subhanahu wa ta'ala. De même, Pharaon lui-même se déclarait comme étant une divinité en dehors d'Allah azza wa jal. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit ensuite: بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله. L'étude des textes nous prouve très clairement que chaque fois que la personne est de plus en plus orgueilleuse, elle est de plus en plus polythéiste. Plus l'orgueil s'élève, plus la personne commet de shirk. Et ça, comme nous dit le Cheikh Al-Fawzan, on le voit clairement lorsque l'on étudie dans le Coran et dans les textes les histoires des nations passées. On le voit très clairement que ce qui les a poussés à commettre le shirk et à abandonner le message de leur prophète, c'est justement le polythéisme, l'orgueil, pardon. L'auteur nous dit « لِأَنَّهُ كُلَّمَا اسْتَكْبَرَ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ ازْدَادَ فَقْرُهُ وَحَاجَتُهُ إِلَى الْمُرَادِ الْمَحْبُوبِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودِ » Regardez, subhanallah. Car plus la personne s'enfle d'orgueil en refusant d'adorer Allah, plus le besoin de base qui est dans le cœur grandit. Et ce besoin-là, tu ne peux le nourrir qu'en adorant Allah. Donc quand la personne adore autre qu'Allah Azza wa Jal, elle n'a pas rassasié sa soif, ni sa faim. Plus le temps passe, plus la faim grandit, plus la soif grandit. N'est-ce pas? Surtout quand tu fais des efforts, tu as de plus en plus soif, de plus en plus faim. N'est-ce pas? Eh bien ici, plus la personne adore autre qu'Allah, plus la personne s'enfle d'orgueil, plus le besoin initial qu'elle a d'Allah Azza wa Jal grandit, plus le besoin qu'elle a d'un aimé adoré, d'un bien-aimé adoré, grandit. D'un bien-aimé qui doit être le premier recherché, grandit. الذي هو المقصود مقصود القلب بالقصد الأول فيكون مشركا بما استعبده من ذلك. Alors que va-t-il se passer? Il va en résulter que plus ce besoin grandit, plus la personne va essayer de le nourrir chez autre qu'Allah Azza wa Jal. Et plus elle va le nourrir chez autre qu'Allah, plus elle va approfondir et agrandir son shirk, son polythéisme. L'auteur nous dit وَلَنْ يَسْتَغْنِيَ الْقَلْبُ عَنْ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ. Subhanallah. Et le cœur ne sera Cheikh Al-Fawzan nous dit أي لَا يَسْتَغْنِي الْقَلْبُ عَنِ الْخَلْقِ إلا إذا كان الله جل وعلا هو معبوده وحده لا شريك له. Le cœur ne pourra jamais se passer de toutes les créatures. Cheikh Saleh Al-Fawzan nous explique, c'est-à-dire le cœur ne peut pas se passer des créatures sauf s'il fait du créateur son adoré. Parce que si le cœur n'adore pas Allah tabaraka wa ta'ala, il va forcément adorer autre que lui. Et il deviendra donc dépendant de ces autres qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ces autres ont différentes formes. Ça peut être le soleil, la lune, la vache, la tombe, l'homme, l'ange. Ça peut être l'argent, ça peut être une femme, ça peut être le sexe opposé, ça peut être les passions. Mais le cœur va forcément aller s'attacher à quelque chose qu'il aime, quelque chose qu'il recherche, quelque chose qu'il veut. Et le cœur ne pourra pas se passer des créatures d'Allah, car il ne trouvera jamais de quoi se rassasier. Alors il adorera les créatures, walayyadu billah. Que s'il adore Allah. S'il adore Allah seul et uniquement, alors il pourra se passer de tout autre que lui parmi ses créatures, subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, il se passe d'autre qu'Allah azza wa jal. L'auteur nous dit, illa بأن يكون الله وحده مولاه الذي لا يعبد إلا إياه. Le cœur ne peut pas se passer des créatures sauf s'il fait en sorte qu'Allah Azza wa Jal soit son allié en dehors duquel il n'adore personne. ولا يستعين إلا به. Et duquel il demande l'aide exclusivement et à nul autre que lui. ولا يتوكل إلا عليه. Et auquel il place toute sa confiance et à nul autre que lui. وَلَا يَفْرَحُ إِلَّا بِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَهُ, et pour lequel il éprouve toute sa joie. Il n'éprouve donc la joie pour nul autre que lui. وَلَا يَكْرَهُ إِلَّا مَا يُبْغِضُهُ الرَّبُّ وَيَكْرَهُ, et il ne déteste que ce que son Seigneur déteste. وَلَا يُوَالِي إِلَّا مَنْ وَالَاهُ اللَّهُ, et il ne prend en allié que ce qui est pris en allié par Allah. وَلَا يُعَادِي إِلَّا مَنْ عَادَاهُ اللَّهُ, et il ne prend en ennemi que ce qui est pris en ennemi par Allah. وَلَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهُ, il n'aime que ce que pour Allah. Pardon. وَلَا يُحِبُّ إِلَّا اللَّهُ, il n'aime qu'Allah. L'amour de base, l'amour essentiel. وَلَا يُبْغِضُ شَيْئًا إِلَّا لِلَّهُ, il ne déteste quelque chose que pour Allah. وَلَا يُعْطِي إِلَّا لِلَّهُ, il ne donne que pour Allah. وَلَا يَمْنَعُ إِلَّا لِلَّهُ, il ne prive, c'est-à-dire il ne donne pas, il ne prive que pour Allah. Cheikh Salah Al-Fawzan nous dit, هَذَا كَمَالُ الْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, ça c'est la servitude complète pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Cette servitude complète fait en sorte que tu te passes de toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal, dès lors que c'est en lui que tu places ta confiance, c'est lui que tu adores, c'est à lui que tu demandes l'aide, c'est chez lui que tu trouves ta joie et ta quiétude. Tu prends en allié ses alliés, en ennemi ses ennemis, tu aimes ceux qu'il aime, tu détestes ceux qu'il déteste. Ça c'est la réalité de la servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala. فَكُلَّمَا قَوِيَ إِخْلَاصُ دِينِهِ لِلَّهِ كَمُلَتْ عُبُودِيَّتُهُ وَاسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ الْمَخْلُوقَاتِ, plus la sincérité de la personne dans sa religion augmente et se développe pour Allah subhanahu wa ta'ala, plus sa servitude pour lui devient complète et alors il se passe de toutes les créatures. Voilà ce qui te libère des créatures. Le Créateur subhanahu wa ta'ala. وَبِكَمَالِ عُبُودِيَّتِهِ لِلَّهِ يُبَرِّئُهُ مِنَ الْكِبْرِ وَالشِّرْكِ, et regardez en verset ce qui suit, proportionnellement à la servitude que l'individu développe pour Allah, Allah tabaraka wa ta'ala le préserve de l'orgueil et du shirk. À quoi l'orgueil amène? Le Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah nous dit, فَإِذَا تَحَرَّرَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ مِنَ الشِّرْكِ فَإِنَّهُ يَتَحَرَّرُ مِنَ الْكِبْرِ وَيَتَحَرَّرُ مِنَ الشِّرْكِ وَيَكُونُ عَبْدًا مُخْلِصًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حِينَئِذٍ يَتَوَلَّاهُ اللَّهُ وَيُعِينُهُ وَيُمِدُّهُ بِنَصْرِهِ وَيَجْعَلُ الْعَاقِبَةَ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Lorsque le serviteur se libère du shirk par l'adoration d'Allah, il se libère de l'orgueil. Il est donc libre du shirk. Il devient un adorateur d'Allah sincère. À ce moment-là, Allah le prend en allié. Allah l'aide, le secourt, et lui donne une issue favorable dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla a dit, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. Quiconque recherche fierté et puissance, la fierté et la puissance tout entière sont à Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah nous dit ensuite, وَالشِّرْكُ غَالِبٌ عَلَى النَّصَارَى وَالْكِبْرُ غَالِبٌ عَلَى الْيَهُودِ. En parlant des différentes communautés de polythéistes, il nous dit, الشرك, le polythéisme, est quelque chose qui prime chez les chrétiens. Et l'orgueil est quelque chose qui prime chez les juifs. Ces deux communautés que l'on appelle Ahlul Kitab, les gens du livre. On les appelle Ahlul Kitab parce qu'ils ont reçu un livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est que ces deux livres ont été falsifiés après la mort des deux prophètes qui leur ont été envoyés, que sont Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam. Premièrement, il nous dit que le polythéisme est quelque chose qui prime chez les chrétiens. En effet, après l'étude des textes, nous voyons dans le Coran très clairement qu'Allah Azza wa Jal nous dit « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » Ils ont pris leurs moines et leurs leur rabbin, exactement, en seigneur en dehors d'Allah. Al-Masih ibn Maryam. De même, ils l'ont fait avec Al-Masih, le prophète Isa alayhi salam, fils de Maryam. Alors que وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Ils n'ont été ordonnés que d'adorer une seule divinité. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Nulle divinité ne mérite réellement l'adoration autre que lui, exempt soit-il de ce qui lui associe. Les chrétiens ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont associé à Allah tabaraka wa ta'ala, le Cheikh Salih al-Fawzan, Ibrahim, le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit فَالنَّصَارَ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ حَيْثُ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Les chrétiens ont associé Allah Azza wa Jal en prenant en seigneur leurs moines. Ce que l'on appelle Al-Ahbar, c'est le pluriel de Al-Habr. Al-Habr, ce sont les ulama, leurs savants. Ils les ont adorés en dehors d'Allah. Et ce que l'on appelle Al-Ruhban, ce sont Al-Ubbad, les dévots, les adorateurs. Ils les ont aussi adorés en dehors d'Allah. Azza wa Jal, tout comme ils ont adoré Isa en dehors d'Allah alayhi salam. Comment est-ce qu'ils les ont adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal? Ils les ont adorés en dehors d'Allah en leur obéissant dans ce qu'ils ont déclaré licite malgré son caractère illicite et ce qu'ils ont déclaré illicite malgré son caractère licite. Ils les ont pris en législateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. En cela, ils leur ont voué une forme d'adoration qu'il ne devait vouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Salih al-Fawzan nous dit وَمِثْلُهُمْ الصُّوفِيَّ. C'est le même cas pour le soufisme, les gens du soufisme. الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْأَوْلِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ أَرْبَابًا وَوَسَائِطَ وَشُفَعَاءَ عِنْدَ اللَّهِ. Ces gens-là qui ont fait de ce qu'ils appellent l'awliya, les pieux, les alliés, les vertueux, ils les ont pris en seigneur en dehors d'Allah, en intermédiaire, en intercesseur en dehors d'Allah. Wa mithluhum ashabul ahwa alladhina attakhadhu min aqwali al-ulama'i sullaman lima yuriduna wa law kanat hadhihi al-aqwal mukhalifatan lid-dalil min al-kitab was-sunnah. Il en est de même pour ceux qui ont pris parmi les gens des passions, les paroles de leurs savants qui contredisent les textes clairs du Coran et de la Sunna. Quant au prophète, il nous dit que les prophètes, eux, sont obéis parce qu'ils transmettent la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On ne les adore pas, les prophètes. On leur obéit parce qu'ils nous transmettent les ordres qui viennent d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, nous dit, ou avant d'arriver à cela, l'orgueil est quelque chose qui prime chez les juifs. Comme Allah azza wa jalla a dit dans sourate al-Baqara, أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ إِسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Allah Azza wa Jal s'adresse à ces gens-là et leur dit, est-ce que chaque fois qu'un messager vient à vous avec ce qui ne convient pas à vos âmes, vous allez vous enorgueillir? Certains parmi vous vont traiter de menteurs, d'autres parmi vous vont tuer, car beaucoup de prophètes ont été tués par Banu Israël, comme cela est connu. Donc on voit que la mention de l'orgueil a été faite par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite l'auteur rahimahullah nous dit قال تعالى في النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. Ça on l'a lu. وقال في اليهود أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم الآية. On l'a lu également. وقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. Dans Sourate Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens rapproché du verset, « J'écarterai très certainement de mes versets, de mes signes, ceux qui se sont enorgueillis sur terre injustement. Quand bien même ils verraient tous les signes, ils n'y croiront pas. S'ils voient le chemin de la droiture, ils ne le suivront pas. Et s'ils voient le chemin de l'égarement, ils le suivront. » Qu'est-ce que l'on voit ici? Nous dit le Cheikh Al-Fawzan, Al-Kibru sababun li sarfi al-qulubi an qabul al-haq. L'orgueil est une cause de détournement des cœurs de l'acceptation de la vérité. Lorsque la personne a dans son cœur de l'orgueil, eh bien Allah Azza wa Jalla la détourne. Elle la détourne de la compréhension de son livre. Elle la détourne de l'acceptation. Elle la détourne de la compréhension de la foi. Et cela est suffisant comme danger et catastrophe. Quand bien même il verrait alors tous les signes d'Allah Azza wa Jalla, il ne les suivrait pas. Et s'il voyait le chemin de l'égarement, il le suivrait. Malgré la clarté des signes, dès lors que les cœurs sont habités par l'orgueil, eh bien l'orgueil est une barrière, à cause de laquelle Allah ne guide pas leur cœur, ne les fait pas comprendre la vérité. Et ça, tu le vois même dans la vie de tous les jours. Les personnes qui sont orgueilleuses, lorsqu'elles entendent « قال الله عز وجل »« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » et qu'elles n'acceptent pas, tu peux leur expliquer chaque verset en détail. Tu vois que la personne ne comprend pas ce que tu lui dis. Vous le voyez? Tu lui parles de choses qui sont très claires, très simples, et pourtant, cette personne qui est face à toi te répond par des réponses montrant qu'elle n'a absolument rien compris de ce que tu lui as dit. Pourquoi? La réponse est dans ce verset. Ils se sont enorgueillis, Allah les a détournés de la compréhension. L'orgueil fait donc détourner de la compréhension, tout comme il conduit au shirk, au polythéisme. Wal'iyadu billah. On s'arrête ici. Inch'Allah ta'ala, et l'on reprend demain. Allahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.